les Rambeaux, troisième partie. Clérambault rentra de l'hôpital et, s'enfermant dans sa chambre, il se mit à écrire. Madame Clérambault, une fois, voulut entrer, s'informa de ce qu'il faisait avec une sorte de méfiance. On eût dit qu'une intuition, bien rare chez cette brave femme qui ne devinait jamais rien, lui inspira une crainte obscure de ce que son mari préparait. Il réussit à défendre sa retraite jusqu'à ce qu'il eût achevé. D'ordinaire, il ne faisait grâce aux siens d'aucune de ses lignes. C'était un plaisir de naïve, d'affectueuse vanité. C'était aussi un devoir de tendresse, dont, pas plus que, il n'aurait pu se passer. Cette fois, il s'en dispensa, et il évita de s'en avouer les raisons. Quoiqu'il fût loin d'imaginer les conséquences de son acte, il avait peur des objections. Il n'était pas assez sûr de lui pour s'y exposer. Il voulait mettre les autres en face du fait accompli. Son premier cri était pour s'accuser. « Ô mort, pardonnez-nous !» Cette confession publique portait en épigraphe la phrase musicale d'une vieille plainte de David pleurant sur le corps de son fils Absalom. J'avais un fils, je l'aimais, je l'ai tué. Père de l'Europe en deuil, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour vous que je parle. Millions de pères, pères veufs de vos fils, ennemis ou amis, tous couverts de leur sang comme moi. C'est vous tous qui parlez, par la voix d'un des vôtres, ma misérable voix qui souffre et se repent. Mon fils a été tué pour les vôtres, par les vôtres, je ne sais, comme les vôtres. Comme vous, j'ai accusé l'ennemi, j'ai accusé la guerre. Mais le principal coupable, je le vois aujourd'hui, je l'accuse, c'est moi. C'est moi, et moi, c'est vous, c'est nous. Que je vous force à entendre ce que vous savez bien, mais ne voulait pas savoir. Mon fils avait 20 ans lorsqu'il est tombé sous les coups de la guerre. 20 ans je l'ai chéri, défendu contre la faim, le froid, contre les maladies, contre la nuit de l'esprit, l'ignorance, l'erreur, contre toutes les embûches dissimulées dans l'ombre de la vie. Mais qu'ai-je fait pour le défendre contre le fléau qui venait? Je n'étais pourtant pas de ceux qui pactisaient avec les passions des nationalismes jaloux. J'aimais les hommes, j'avais joie à me représenter leur fraternité future. Pourquoi donc n'ai-je rien fait contre ce qui l'a menacé, contre la fièvre qui couvait, contre la paix menteuse, qui, le sourire aux lèvres, se préparait à tuer? Peur de déplaire, peut-être? Peur des inimitiés? J'aimais trop à aimer, surtout à être aimé. Je craignais de compromettre la bienveillance acquise, cet accord fragile et fade avec ceux qui nous entourent. Cette comédie qu'on joue aux autres et à soi, et dont on n'est pas dupe, puisque des deux côtés on redoute de dire le mot qui effriterait le plâtre et dénuderait la maison crevassée. Peur de voir clair en soi, équivoque intérieur. Vouloir tout ménager, faire tenir ensemble les vieux instincts et la nouvelle croyance, les forces qui s'entre-détruisent et s'annulent mutuellement. Patrie, humanité, guerre et paix. Ne pas savoir au juste de quel côté l'on penche, pencher de l'un à l'autre, comme en se balançant. Peur de l'effort à faire pour prendre une décision et pour faire son choix. Paresse et lâcheté. Le tout bien recrépi d'une foi complaisante en la bonté des choses, qui saurait, pensions-nous, s'organiser d'elles-mêmes. Et nous nous contentions de regarder, de glorifier le cours impeccable du destin, courtisan de la force. À notre défaut, les choses ou les hommes, d'autres hommes, ont choisi. Et nous avons compris alors que nous nous étions trompés. Mais il nous était si affreux d'en convenir, et nous étions si déshabitués d'être vrais, que nous avons agi comme si nous étions d'accord avec le crime. Pour gage de l'accord, nous avons livré nos fils. Ah, nous les aimons bien, sûrement plus que nos vies, s'il ne s'était agi que de donner nos vies. Mais pas plus que notre orgueil, s'exténuant à voiler notre désarroi moral, le vide de notre esprit et la nuit de notre cœur. Passe encore pour ceux qui croient à la vieille idole, hargneuse, envieuse, poissée de sang caillé, la patrie barbare. Cela, en lui sacrifiant les autres et les leurs, tue. Mais du moins ils ne savent ce qu'ils font. Mais ceux qui ne croient plus, qui seulement veulent croire, et c'est moi, et c'est nous, en sacrifiant leur fils, ils l'offrent à un mensonge. Affirmer dans le doute, c'est mentir. Ils l'offrent pour se prouver à eux-mêmes leur mensonge. Et maintenant que nos aimés sont morts pour notre mensonge, bien loin de l'avouer, nous nous y enfonçons jusqu'au-dessous des yeux, afin de ne plus le voir. Et il faut qu'après les nôtres, les autres, tous les autres, meurent pour notre mensonge. Mais moi je ne peux pas, je pense au Fils encore vivant. Est-ce que cela me fait du bien, que cela fasse du mal aux autres? Suis-je un barbare du temps d'Homère pour croire que j'apaiserai la douleur de mon fils mort et de sa fin de la lumière en répandant sur la terre qui le dévore le sang des autres fils? En sommes-nous toujours là? Non. Chaque meurtre nouveau tue mon fils une fois de plus, fait peser sur ses os la lourde boue du crime. Mon fils était l'avenir. Si je veux le sauver, je dois sauver l'avenir, je dois épargner aux pères qui viendront la douleur où je suis. Au secours, aidez-moi, rejetez ce mensonge. Est-ce pour nous que se livrent ces combats entre États, ce brigandage de l'univers? De quoi avons-nous besoin? La première des joies, la première des lois, n'est-elle pas celle de l'homme qui, pareil à un arbre, monte droit et s'étend sur le cercle de terre qui est à sa mesure? Par sa libre sève et son calme labeur, voit sa multiple vie, en lui et en ses fils, patiemment s'accomplir. Et qui donc d'entre nous, frères du monde, est jaloux pour les autres de ce juste bonheur, voudrait le leur voler? Qu'avons-nous à faire de ces ambitions, de ces rivalités, de ces cupidités, de ces maladies d'esprit que des blasphémateurs couvrent du nom de patrie? La patrie, c'est vous, Père. La patrie, c'est nos fils, tous nos fils. Sauvons-les. sans consulter personne, il alla porter ses pages, à peine écrites, chez un petit éditeur socialiste du quartier. Il revint soulagé. Il pensait « Maintenant j'ai parlé, cela ne me regarde plus ». Mais la nuit qui suivit, il perçut brusquement, par un coup dans la poitrine, que cela le regardait plus que jamais. Il s'éveilla. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il éprouvait une souffrance de pudeur à livrer au public sa douleur sacrée. Et sans imaginer qu'elle pût soulever des colères, il avait le sentiment des incompréhensions, des commentaires grossiers qui sont des profanations. Les journées suivantes passèrent. Il ne se produisit rien. Silence. L'appel avait plongé dans l'inattention publique. L'éditeur était peu connu, le lancement de la brochure négligemment fait. Il n'y a pire sourd que ce qui ne veut pas entendre. Les quelques lecteurs qu'avait attiré le nom de Clérambeau avaient, dès les premières lignes, écarté cette lecture importune. Il pensait, le pauvre homme, son malheur est en train de lui troubler la tête. Bon prétexte pour ne pas risquer de compromettre l'équilibre de la leur. Un second article suivit. Clérambeau y prenait congé du vieux fétiche sanglant, la patrie. Ou plutôt, il opposait au grand carnassier auquel se livrent en pâture les pauvres hommes de ce temps, à la louve romaine, l'auguste mère de tout ce qui respire, la patrie universelle. À celle qu'on a aimée. Nulle douleur plus amère que de se séparer de celle qu'on a aimée. En l'arrachant de mon cœur, c'est mon cœur que j'arrache. La chère, la bonne, la belle, si du moins on avait l'aveugle privilège de ces amants passionnés qui peuvent oublier tout, tout l'amour, tout le beau et le bon d'autrefois, pour ne plus voir que le mal qu'elle vous fait aujourd'hui et ce qu'elle est devenue. Mais je ne sais pas oublier. Je te verrai toujours comme je t'ai aimé, quand je croyais en toi, quand tu étais mon guide et ma meilleure amie. Patrie, pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi nous as-tu trahis? Encore, si j'étais seule à souffrir, je cacherais la triste découverte sous ma tendresse passée? Mais je vois tes victimes, ces peuples, ces jeunes hommes crédules et épris. Je reconnais en eux celui que je fus aussi. Comme tu nous as trompés. Ta voix nous semblait celle de l'amour fraternel. Tu nous appelais à toi afin de nous unir. Plus d'isolés, tous frères. À chacun tu prêtais les forces de milliers d'autres. Tu nous faisais aimer notre ciel, notre terre et l'œuvre de nos mains. Et nous nous aimions tous en t'aimant. Où nous as-tu conduits? Ton but, en nous unissant, était-il seulement de nous faire plus nombreux pour haïr et pour tuer? Ah, nous avions assez de nos haines isolées. Chacun avait son fait de ses mauvaises pensées. Du moins, en y cédant, nous les savions mauvaises. Mais toi, tu les nommes sacrées, empoisonneuses des âmes. Pourquoi ces combats? Pourquoi notre liberté? Tu fais de nous des esclaves. Pour notre conscience, tu l'outrages. Pour notre bonheur, tu le saccages. Pour notre prospérité, notre terre est ruinée. Et qu'avons-nous besoin de nouvelles conquêtes quand le champ de nos pères nous est devenu trop grand? Est-ce pour l'avidité de quelques dévorants? La patrie a-t-elle pour mission d'emplir ses ventres avec le malheur public? Patrie vendue aux riches, aux trafiquants de l'âme et du corps des nations. Patrie qui est leur complice et leur associé, qui couvrent leur vilenie de ton geste héroïque, prends garde. Voici l'heure où les peuples secouent leur vermine, leur dieu, leur maître qui les abuse. Qu'ils poursuivent parmi eux les coupables. Moi, je vais droit au maître, dont l'ombre les couvre tous. Toi qui trônes impassible, tandis que les multitudes s'égorgent en ton nom, toi qu'ils adorent tous en se haïssant tous, toi qui jouis d'allumer le rude sanglant des peuples, femelles, dieu de proie, faux Christ qui plane au-dessus des tueries, avec tes ailes en croix et tes serres d'épervier. Qui t'arrachera de notre ciel? Qui nous rendra le soleil et l'amour de nos frères? Je suis seul et je n'ai que ma voix, qu'un souffle va éteindre. Mais avant de disparaître, je crie, tu tomberas, tyran, tu tomberas. L'humanité veut vivre, le temps viendra où l'homme va briser ton joug de mort et de mensonge. Le temps vient, le temps est là. Réponse de l'aimé. Ta parole, mon fils, est la pierre qu'un enfant lance contre le ciel. Elle ne m'atteint pas. C'est sur toi qu'elle retombe. Celle que tu outrages, qui usurpe mon nom, est l'idole que tu as sculptée. Elle est à ton image et non pas à la mienne. La vraie patrie est celle du Père. Elle est commune à tous. Elle vous embrasse tous. Ce n'est pas sa faute si vous la rapetissez à votre taille. Malheureux homme, vous souillez tous vos dieux. Il n'est pas une grande idée que vous n'avilissiez. Le bien qu'on veut vous faire, vous le tournez en poison. La lumière qu'on vous verse vous sert à vous brûler. Je suis venu parmi vous pour réchauffer votre solitude. J'ai rapproché vos âmes grelottantes en troupeaux. J'ai fait de vos faiblesses dispersées un faisceau. Je suis l'amour fraternel, la grande communion. Et c'est en mon nom, ô fou, que vous vous détruisez. Je peine depuis des siècles à vous délivrer des chaînes de la bestialité. J'essaie de vous faire sortir de votre dur égoïsme. Sur la route du temps, vous avancez en ahanant. Les provinces, les nations, sont les bornes milliaires qui jalonnent vos haltes essoufflées. C'est votre débilité qui seule les a plantées. Pour vous mener plus loin, j'attends que vous ayez repris haleine. Mais vous êtes si pauvre de souffle et de cœur que de votre impuissance vous vous faites une vertu. Vous admirez vos héros pour les limites auxquelles ils ont dû s'arrêter, épuisés, et non parce qu'ils ont su y atteindre les premiers. Parvenus sans effort au point où ces héros avant-coureurs sont tombés, vous croyez être des héros à votre tour. Qu'ai-je à faire aujourd'hui de vos ombres du passé? L'héroïsme dont j'ai besoin n'est plus celui des Bayards, des Jeanne d'Arc, chevaliers et martyrs d'une cause à présent dépassée, mais d'apôtres de l'avenir, de grands cœurs qui se sacrifient pour une patrie plus large, pour un idéal plus haut. En marche, franchissez les frontières. Puisqu'il faut encore ces béquilles à votre infirmité, reportez-les plus loin, aux portes de l'Occident, aux bornes de l'Europe, jusqu'à ce que pas à pas vous arriviez au terme et que la ronde des hommes fasse le tour du globe en se donnant la main. Misérable écrivain, qui m'adresse des outrages, redescends en toi-même, ose t'examiner. Je t'ai donné le pouvoir de parler pour guider les hommes de ton peuple, et tu en as usé pour te tromper toi-même et pour les égarer. Tu as enfoncé dans leur erreur ce que tu devais sauver. Tu as eu le triste courage de sacrifier à ton mensonge ce que tu aimais. Ton fils. Maintenant, pauvre ruine, Oseras-tu du moins t'offrir en spectacle aux autres et dire « Voilà mon œuvre, ne l'imitez pas !» Va, et que ton infortune puisse éviter ton sort à ceux qui viendront après. Ose parler, crie-leur. Peuple, vous êtes fous. Vous tuez la patrie en croyant la défendre. La patrie, c'est vous tous. Vos ennemis sont vos frères. Embrassez-vous, millions d'êtres. Le même silence parut engloutir ce nouveau cri. Clérambeau vivait en dehors des milieux populaires, où ne lui eût point manqué la chaude sympathie des cœurs simples et saints. D'un écho éveillé par sa pensée, il ne percevait rien. Mais, quoiqu'il se vît seul, il savait qu'il ne l'était point. Deux sentiments extrêmes, qui paraissaient contraires, sa modestie et sa foi, s'unissaient pour lui dire « Ce que tu penses, d'autres le pensent. Ta vérité est trop grande et tu es trop petit pour qu'elle n'existe qu'en toi. Ce que tu as pu voir avec tes mauvais yeux, d'autres yeux en reçoivent, comme toi, la lumière. » En ce moment, la grande ours s'incline à l'horizon. Des milliers de regards la contemplent peut-être. Tu ne vois pas les regards, mais la flamme lointaine les marie à tes yeux. La solitude de l'esprit n'est qu'une illusion, amèrement douloureuse, mais sans réalité profonde. Nous appartenons tous, même les plus indépendants, à une famille morale. Cette communauté d'esprit n'est pas groupée en un pays ou en un temps. Ces éléments sont dispersés à travers les peuples et les siècles. Pour un conservateur, ils sont dans le passé. Les révolutionnaires et les persécutés les trouvent dans l'avenir. Avenir et passé ne sont pas moins réels que le présent immédiat, dont le mur borne les regards satisfaits du troupeau. Et le présent, lui-même n'est pas tel que voudraient le faire croire les divisions arbitraires des États, des nations et des religions. L'humanité actuelle est un bazar de pensées. Sans les avoir triées, on les a mises en tas, que séparent des clôtures hâtivement construites. Ainsi, les frères sont séparés des frères et parqués avec des étrangers. Chaque État englobe des races différentes qui ne sont nullement faites pour penser et agir ensemble. Chacune des familles ou des belles familles morales qu'on appelle des patries enveloppe des esprits qui, en fait, appartiennent à des familles différentes, actuelles, passées ou à venir. Ne pouvant les absorber, elles les oppriment. Ils n'échappent à la destruction que par des subterfuges. Soumission apparente, rébellion intérieure, ou par la fuite, exil volontaire et immatelos. Leur reprocher d'être insoumis à la patrie, c'est reprocher aux Irlandais, aux Polonais, d'échapper à l'engloutissement par l'Angleterre ou par la Prusse. Ici et là, ces hommes restent fidèles à la vraie patrie. Ô vous qui prétendez que cette guerre a pour but de rendre à chaque peuple le droit de disposer de soi, quand rendrez-vous ce droit à la République dispersée des libres âmes du monde entier? Cette République, Clérambeau, isolée, savait qu'elle existait. Comme la Rome de Sertorius, elle était tout en lui. Tout en chacun de ceux, les uns aux autres, inconnus, pour qui elle est la patrie. Brusquement, la muraille de silence qui bloquait la parole de Clérambeau tomba. Et ce ne fut pas la voix d'un frère qui répondit à la sienne. Où la force de sympathie eût été trop faible pour rompre les barrières, la sottise et la haine aveuglément firent une brèche. Après quelques semaines, Clérambeau se croyait oublié et songeait à une publication nouvelle quand un matin Léo Camus tomba chez lui, avec fracas. Il était crispé de colère. Avec un front tragique, il tendit à Clérambeau un journal grand ouvert. « Lis !» Et, debout derrière lui, tandis que Clérambeau lisait, « Qu'est-ce que cette saloperie ?» Clérambeau, consterné, se voyait poignardé par une main qu'il croyait amie. Un écrivain notoire, en bons termes avec lui, collègue de Perrotin, homme grave, honorable, avait, sans hésiter, assumé le rôle de dénonciateur public. Bien qu'il connût depuis assez longtemps Clérambeau pour n'avoir aucun doute sur la pureté de ses intentions, il le présentait sous un jour déshonorant. Historien habitué à manipuler les textes, il détachait de la brochure de Clérambeau quelques phrases tronquées, et il les brandissait comme un acte de trahison. Sa vertueuse indignation ne se fut point satisfaite d'une lettre privée. Elle avait fait choix du plus bruyant journal, basse officine de chantage dont 1 million de Français méprisaient, mais avalaient les bourdes, le bouche bée. « Ce n'est pas possible, » balbutiait Clérambeau, « que cette animosité inattendue trouvait sans défense. »« Pas un instant à perdre, » dit Camus, « il faut répondre. »« Répondre ? Que puis-je répondre ?»« D'abord, naturellement, démentir cette ignoble invention. »« Mais ce n'est pas une invention, » dit Clérambeau, en relevant la tête et regardant Camus. Ce fut au tour de Camus d'être frappé de la foudre. « Ce n'est pas ? Ce n'est pas ? » bégaya-t-il de saisissement. « La brochure est de moi, » dit Clérambeau. « Mais le sens en est dénaturé par cet article. » Camus n'avait pas attendu la fin de la phrase pour hurler. « Tu as écrit ça ? Toi ? Toi ?» Clérambeau, essayant de calmer son beau-frère, le priait de ne pas juger avant de savoir exactement. Mais l'autre le traitait, à tue-tête, d'aliéné, et criait « Je ne m'occupe pas de cela. Oui ou non, as-tu écrit contre la guerre, contre la patrie ?»« J'ai écrit que la guerre est un crime et que toutes les patries en sont souillées. » Camus bondit. Sans permettre à Clérambeau de s'expliquer davantage, fit le geste de l'empoigner au collet et, se retenant, il lui souffla à la face que le criminel c'était lui et qu'il méritait de passer illico en conseil de guerre. Aux éclats de sa voix, la domestique écoutait à la porte. Madame Clérambeau, accourue, tâchait d'apaiser son frère avec un flot de paroles sur le mode suraigu. Clérambeau, assourdi, offrait vainement à Camus de lui lire la brochure incriminée. Mais Camus s'y refusait avec fureur, disant qu'il lui suffisait de connaître de cette ordure ce que les journaux en exposaient. Il traitait les journaux de menteurs, mais il ratifiait leurs mensonges. Et, se posant en justicier, il somma Clérambeau d'écrire sur le champ, devant lui, une lettre de rétractation publique. Clérambeau haussa les épaules. Il dit qu'il n'avait de comptes à rendre qu'à sa conscience, qu'il était libre. « Non !» cria Camus. « Quoi ? Je ne suis pas libre ? Je n'ai pas le droit de dire ce que je pense ?»« Non, tu n'es pas libre. Non, tu n'as pas le droit !» criait Camus exaspéré. « Tu dépends de la patrie, et d'abord de la famille. » Elle aurait le droit de te faire enfermer ? Il exigea que la lettre fût écrite, à l'instant. Clérambeau lui tourna le dos. Camus partit, en frappant les portes, criant qu'il ne remettrait plus les pieds ici. Entre eux, tout est fini. Après, Clérambeau eut à subir les questions éplorées de sa femme, qui, sans savoir ce qu'il avait fait, se lamentait de son imprudence et lui demandait « Pourquoi il ne se taisait pas? N'avait-il pas assez de malheur? Quelle démangeaison de parler! Et quelle manie surtout de vouloir parler autrement que les autres !» Rosine rentrait d'une course. Clérambeau la prit à témoin. Il lui raconta confusément la scène pénible qui venait de se passer et la pria de s'asseoir auprès de sa table pour qu'il lui donnât lecture de l'article. Sans prendre le temps d'enlever ses gants et son chapeau, Rosine s'assit près de son père, l'écouta sagement, gentiment, et, quand il eut fini, elle alla l'embrasser et dit « Oui, c'est beau. Mais papa, pourquoi as-tu fait cela ?» Clérambeau fut démonté. « Comment, pourquoi je l'ai fait? Est-ce que ce n'est pas juste ?»« Je ne sais pas. Oui, je crois. Cela doit être juste puisque tu le dis. Mais peut-être que ce n'était pas nécessaire de l'écrire. » »«
Pas nécessaire? Si c'est juste, c'est nécessaire. » »«
Puisque cela fait crier.
Mais ce n'est pas une raison. »
« À quoi bon faire crier ?»«
Voyons, ma petite fille, ce que j'ai écrit, tu le penses aussi ?»«
Oui, papa, je crois. »«
Voyons, voyons, tu crois ? Tu détestes la guerre comme moi, tu voudrais l'avoir finie. »« Tout ce que j'ai dit là, je te l'ai dit à toi, et tu pensais comme moi. »«
Oui, papa. » »«
Alors tu l'approuves ?»«
Oui, papa. » Elle avait passé ses bras autour de son cou. Mais il n'y a pas besoin de tout écrire. Clérambeau, attristé, essaya d'expliquer ce qui lui semblait évident. Rosine écoutait, répondait tranquillement. Et la seule évidence fut qu'elle ne comprenait pas. Pour finir, elle embrassa encore son père et dit « Moi, je t'ai dit ce que je crois, mais tu sais mieux que moi, ce n'est pas à moi de juger. » Elle rentra dans sa chambre en souriant à son père. Et elle ne doutait pas qu'elle venait de lui retirer son meilleur appui. L'attaque injurieuse ne resta pas isolée. Une fois le grelot attaché, il ne cessa plus de tinter. Mais dans le tumulte général, son bruit se fut perdu, sans l'acharnement d'une voix qui groupa contre Clérambeau tout le cœur des malignités diffuses. C'était celle d'un de ses plus anciens amis, l'écrivain Octave Bertin. Ils avaient été camarades au lycée Henri IV. Le petit Parisien Bertin, fin, élégant, précoce, avait accueilli les avances gauches et enthousiastes de ce grand garçon qui arrivait de sa province, aussi dégingandé de corps que d'esprit, les bras, les jambes qui n'en finissaient pas dans des vêtements trop courts, un mélange de candeur, d'ignorance naïve, de mauvais goût, d'emphase et de sève débordante, de saillies originales, d'images saisissantes. Rien n'avait échappé aux yeux malins et précis du jeune Bertin, ni les ridicules, ni les richesses intérieures de Clérambeau. Tout compte fait, il l'avait agréé pour intime. L'admiration que lui témoignait Clérambeau n'avait pas été sans influence sur sa décision. Pendant plusieurs années, ils partagèrent la surabondance bavarde de leurs pensées juvéniles. Tous deux rêvaient d'être artistes, se lisaient leurs essais, s'escrimaient en d'interminables discussions. Bertin avait toujours le dernier mot, comme il primait en tout.
Clérambault ne songeait pas à lui contester sa supériorité. Il l'eût beaucoup plutôt imposé à coups de poing à qui l'aurait nié. Il admirait, bouche bée, la virtuosité de pensée et de style de ce brillant garçon, qui récoltait en se jouant tous les succès universitaires, et que ses maîtres voyaient d'avance appeler aux plus hautes destinées, il voulait dire officielles et académiques. Bertin l'entendait bien ainsi. Il était pressé de réussir, et pensait que le fruit de la gloire est meilleur quand on le mange avec des dents de 20 ans. Il n'était pas sorti de l'école qu'il trouvait moyen de publier dans une grande revue parisienne une série d'essais qui lui valurent une immédiate notoriété. Sans même prendre haleine, il produisit qu'au surcoup un roman à la D'Annunzio, une comédie à la Rostand, un livre sur l'amour, un autre sur la réforme de la Constitution, une enquête sur le modernisme, une monographie de Sarah Bernhardt, enfin des dialogues des vivants dont la verve sarcastique et sagement dosée lui procura la chronique parisienne dans un des premiers journaux du boulevard. Après quoi, entré dans le journalisme, il y resta. Il était un des ornements du tout Paris des lettres quand le nom de Clérambault était encore inconnu. Clérambault, lentement, prenait possession de son monde intérieur. Il avait assez à faire de lutter contre lui-même pour ne pas consacrer beaucoup de temps à la conquête du public. Aussi, ses premiers livres, péniblement édités, ne dépassèrent pas un cercle de 10 lecteurs. Il faut rendre cette justice à Bertin qu'il était des 10 et qu'il savait apprécier le talent de Clérambault. Il le disait même à l'occasion. Et tant que Clérambault ne fut pas connu, il se donna le luxe de le défendre. Non sans ajouter aux éloges quelques conseils amicaux et protecteurs que Clérambault ne suivait pas toujours, mais que toujours il écoutait avec le même respect affectueux. Et puis Clérambault fut connu. Et puis ce fut la gloire. Bertin, bien étonné, content sincèrement du succès de l'ami, un peu vexé tout de même, laissait entendre qu'il le trouvait exagéré et que le meilleur Clérambault était le Clérambault inconnu, celui d'avant la renommée. Il entreprenait parfois de le démontrer à Clérambault, qui ne disait ni oui ni non, car il n'en savait rien et ne s'en occupait guère. Il avait toujours une nouvelle œuvre en tête. Les deux vieux camarades étaient restés en excellents termes, mais ils avaient laissé leur relation peu à peu s'espacer. La guerre avait fait de Bertin un furieux cocardier. Autrefois, au lycée, il scandalisait le provincial Clérambault par son irrespect effronté pour toutes les valeurs, politiques ou sociales, patrie, morale, religion. Dans ses œuvres littéraires, il avait continué de promener son anarchisme, mais sous une forme sceptique, mondaine et lassée, qui répondait au goût de sa riche clientèle. Avec cette clientèle et tous les fournisseurs, ses confrères de la presse et des théâtres du boulevard, ses petits-neveux de Parny et de Crébillon junior, il s'érigea soudain en Brutus, immolant ses fils. Son excuse, d'ailleurs, était qu'il n'en avait pas. Mais peut-être le regrettait-il. Clérambault n'avait rien à lui reprocher. Aussi n'y songeait-il point. Mais il songeait encore moins que son vieux camarade la moraliste se ferait contre lui le procureur de la patrie outragée. Était-ce seulement de la patrie? La furieuse diatribe que Bertin déversa sur Clérambault décelait, semblait-il, un ressentiment personnel que Clérambault ne s'expliquait pas.
Dans le désarroi des esprits, il eût été compréhensible que Bertin fût choqué par la pensée de Clérambeau et s'en expliquât avec lui, librement, seul à seul. Mais, sans le prévenir, il députait par une exécution publique. En première page de son journal, il l'empoignait avec une violence inouïe. Il n'attaquait pas seulement ses idées, mais son caractère. De la crise de conscience tragique de Clérambeau, il faisait un accès de mégalomanie littéraire, dont était responsable un succès disproportionné. On eût dit qu'il chercha les termes les plus blessants pour l'amour-propre de Clérambeau. Il terminait sur un ton de supériorité outrageante, en le sommant de rétracter ses erreurs. La virulence de l'article et la notoriété du chroniqueur firent du cas Clérambeau un événement parisien. Il occupa la presse pendant près d'une semaine, ce qui était beaucoup pour ses cervelles d'oiseaux. Presque aucun ne chercha à lire les pages de Clérambeau. Cela n'était plus nécessaire. Bertin les avait lues. La confrérie n'a pas l'habitude de refaire un travail superflu. Il ne s'agissait pas de lire, il s'agissait de juger. Une curieuse union sacrée s'effectua sur le dos de Clérambeau. Cléricaux, jacobins s'entendirent pour l'exécuter. Du jour au lendemain, sans transition, l'homme d'hier admiré fut traîné dans la boue. Le poète national devint un ennemi public. Tous les myrmidons de la presse y allèrent de leur invective héroïque. La plupart étalaient, avec leur mauvaise foi constitutive, une invraisemblable ignorance. Mais bien peu connaissaient les œuvres de Clérambeau. C'était à peine s'ils savaient son nom et le titre d'un de ses volumes. Cela ne les gênait pas plus pour le dénigrer maintenant que cela ne les avait gênés pour le célébrer naguère, quand la mode était pour lui. Maintenant, il trouvait dans tout ce qu'il avait écrit des traces de bauchisme. Leurs citations étaient, d'ailleurs, régulièrement inexactes. Un d'eux, dans la fougue de son réquisitoire, gratifia Clérambeau de l'ouvrage d'un autre, qui, blêmissant de peur, protesta aussitôt avec indignation en se désolidarisant de son dangereux confrère. Des amis, inquiets de leur intimité avec Clérambeau, n'attendirent pas qu'on la leur rappelât. Ils prirent les devants. Ils lui adressèrent des lettres ouvertes que les journaux publièrent en bonne place. Les uns, comme Bertin, joignaient à leur blâme public une adjuration emphatique de faire son mea culpa. D'autres, sans recourir même à ses ménagements, se séparaient de lui en termes amers et outrageants. Tant d'animosité bouleversa Clérambeau. Elle ne pouvait être causée par ses seuls articles. Il fallait qu'elle couvât déjà dans le cœur de ses hommes. Quoi ? Tant de haine cachée ? Qu'avait-il pu leur faire ? L'artiste qui a du succès ne se doute pas que, parmi les sourires de l'escorte, plus d'un cache les dents qui guettent l'heure de mordre. Clérambeau s'efforçait de dissimuler à sa femme les outrages des journaux. Ainsi qu'un collégien qui escamote ses mauvaises notes, il guettait l'heure du courrier pour faire disparaître les feuilles malfaisantes. Mais leur venin finit par infecter l'air même qu'on respirait. Madame Clérambeau et Rosine eurent à subir, de leurs relations mondaines, des allusions blessantes, de menus affronts, des avanies. Avec l'instinct de justice qui caractérise la bête humaine, et spécialement femelle, on les rendait responsables des pensées de Clérambeau, qu'elle connaissait à peine et qu'elle n'approuvait pas. Ceux qui les incriminaient ne les connaissaient pas davantage. Les plus polis usaient de réticence. Ils évitaient ostensiblement de demander des nouvelles, de prononcer le nom de Clérambeau. Ne parlez pas de cordes dans la maison d'un pendu. Ce silence calculé était plus injurieux qu'un blâme. On eût dit que Clérambeau avait commis une escroquerie ou bien un attentat à la pudeur. Madame Clérambeau revenait, ulcérée. Rosine affectait de ne pas s'en soucier, mais Clérambeau voyait qu'elle souffrait. Une amie, rencontrée dans la rue, passait sur le trottoir opposé et détournait la tête pour ne pas les saluer. Rosine fut exclue d'un comité de bienfaisance où elle travaillait assidûment depuis plusieurs années. Dans cette réprobation patriotique, les femmes se distinguaient par leur acharnement. L'appel de Clérambeau au rapprochement et au pardon ne trouvait pas d'adversaire plus enragé. Il en a été de même partout. La tyrannie de l'opinion publique, cette machine d'oppression, fabriquée par l'État moderne et plus despotique que lui, n'a pas eu en temps de guerre d'instrument plus féroce que certaines femmes. Bertrand Russell cite le cas d'un pauvre garçon, conducteur de tramway, marié, père de famille, réformé par l'armée, qui se suicida de désespoir à la suite des insultes dont le poursuivaient les femmes du Middlesex. Dans tous les pays, des centaines de malheureux ont été, comme lui, traqués, affolés, livrés à la tuerie par ces bacchantes de la guerre. N'en soyons pas surpris. Il faut, pour n'avoir pas prévu cette frénésie, être de ceux qui, tels jusqu'alors Clérambeau, vivent sur des opinions admises et des idéalisations de tout repos. En dépit des efforts de la femme, afin de ressembler à l'idéal mensonger imaginé par l'homme pour sa satisfaction et sa tranquillité, la femme, même étiolée, émondée, ratissée, comme les celles d'aujourd'hui, est bien plus près que l'homme de la terre sauvage. Elle est à la source des instincts et plus richement pourvue en forces, qui ne sont ni morales ni immorales, mais animales toutes pures. Si l'amour est sa fonction principale, ce n'est pas l'amour sublimé par la raison, c'est l'amour à l'état brut, aveugle et délirant, où se mêlent égoïsme et sacrifice, également inconscient, et tous deux au service des buts obscurs de l'espèce. Tous les enjolivements tendres et fleuris, dont le couple s'efforce de voiler ses forces qui l'effraient, sont un treillis de lianes au-dessus d'un torrent. Leur objet est de tromper. L'homme ne supporterait pas la vie si son âme chétive voyait en face les grandes forces qui l'emportent. Son ingénieuse lâcheté s'évertue à les adapter mentalement à sa faiblesse. Il ment avec l'amour, il ment avec la haine, il ment avec la femme, il ment avec la patrie, il ment avec ses dieux. Il a si peur que la réalité apparue ne le fasse tomber en convulsion qu'il lui a substitué les fades chromos de son idéalisme. La guerre faisait crouler le fragile rempart. Clérambeau voyait tomber la robe de féline politesse dont s'habille la civilisation. Et la bête cruelle apparaissait. Les plus tolérants étaient, parmi les anciens amis de Clérambeau, ceux qui tenaient au monde politique. Députés, ministres d'hier ou de demain. Habitués à manier le troupeau humain, ils savaient ce qu'il vaut. Les hardiesses de Clérambeau leur semblaient bien naïves. Ils en pensaient 20 fois plus. Mais ils trouvaient sot de le dire, dangereux de l'écrire, et plus dangereux encore d'y répondre. Car ce que l'on attaque, on le fait connaître. Et ce que l'on condamne, on consacre son importance. Aussi leur avis eût-il été,
sagement, de faire le silence sur ces écrits malencontreux qu'eût négligé, d'elle-même, la conscience publique, somnolente et fourbue. Ça a été, pendant la guerre, le mot d'ordre généralement observé en Allemagne, où les pouvoirs publics étouffaient sous les fleurs les écrivains révoltés, quand ils ne pouvaient pas sans bruit les étrangler. Mais l'esprit politique de la démocratie française est plus franc et plus borné. Elle ne connaît pas le silence. Bien loin de cacher ses haines, elle monte sur des tréteaux pour les expectorer. La liberté française est comme celle de Rude. Gueule ouverte, elle braille. Qui ne pense pas comme elle, aussitôt est un traître. Il se trouve toujours quelques bas journalistes pour dire de quel prix fut achetée cette voix libre. Et vingt énergumènes ameuteront contre elle la fureur des badauds. Une fois la musique en train, rien à faire qu'à attendre que la violence s'épuise par son excès. En attendant, gare à la casse. Les prudents se mettent à l'abri ou hurlent avec les loups. Le directeur du journal, qui s'honorait de publier, depuis plusieurs années, des poésies de Clérambeau, lui fit dire à l'oreille qu'il trouvait tout ce vacarme ridicule, qu'il n'y avait pas dans son cas de quoi fouetter un chat, mais qu'à son grand regret, il se voyait obligé, pour ses abonnés, de l'éreinter. Oh, avec toutes les formes, sans rancune, n'est-ce pas? En effet, rien de brutal, on se borna à le rendre ridicule. Et jusqu'à Perrotin, piteuse espèce humaine, qui, dans une interview, ironisa brillamment Clérambeau, fit rire à ses dépens et pensait en cachette demeurer son ami. Dans sa propre maison, Clérambeau ne trouvait plus d'appui. Sa vieille compagne, qui depuis 30 ans ne pensait que par lui, répétant ses pensées avant même de les comprendre, s'effrayait, s'indignait de ses paroles nouvelles, lui reprochait âprement le scandale soulevé, le tort fait à son nom, au nom de la famille, au souvenir du fils mort, à la sainte vengeance, à la patrie. Quant à Rosine, elle l'aimait toujours, mais elle ne comprenait plus. Une femme a rarement les exigences de l'esprit. Elle n'a que celles du cœur. Il lui suffisait que son père ne s'associât point aux paroles de haine, qu'il restât pitoyable et bon. Elle ne désirait point qu'il traduisît ses sentiments en théorie, ni surtout qu'il les proclamât. Elle avait le bon sens affectueux et pratique de celle qui sauve son cœur et s'accommode du reste. Elle ne comprenait pas cet inflexible besoin de logique qui pousse l'homme à dévider les conséquences extrêmes de sa foi. Elle ne comprenait pas. Son heure était passée, l'heure où elle avait reçu et rempli, sans le savoir, la mission de relever maternellement son père, faible, incertain, brisé, de l'abriter sous son aile, de sauver sa conscience, de lui rendre le flambeau qu'il avait laissé tomber. Maintenant qu'il l'avait repris, son rôle, à elle, était accompli. Elle était redevenue la petite fille, aimante, effacée, qui regarde les grands actes du monde avec des yeux un peu indifférents et dans le fond de son âme, comme la phosphorescence de l'heure surnaturelle qu'elle a vécue, qu'elle couve religieusement et qu'elle ne comprend plus.